Alléluia. Le titre du message aujourd'hui, la plus grande œuvre de Christ. Quelle a été pour Christ sa plus grande œuvre? Quelle a été de sa part son plus grand témoignage? Le témoignage de Christ. Apocalypse 10, 9, verset 11. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Verset 10, c'est-à-dire. Verset 10. Je tombai à ses pieds pour l'adorer. C'est l'ange qui parlait à l'apôtre Jean. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Le témoignage de Jésus, ce que Jésus a à rendre témoignage comme œuvre, parce que quand on parle de témoignage, on parle d'avoir été témoin, d'avoir vu de ses yeux, comme l'apôtre Jean dit, vu de ses yeux et entendu de ses oreilles, la parole de vie. Donc, le témoignage de Jésus, c'est le témoignage que Jésus a rendu devant nous, qui nous a laissé. Ce sont ses œuvres manifestes. Mais le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Autrement dit, toute la prophétie pointe vers Jésus, pointe vers ce témoignage de Jésus. L'esprit de la prophétie, tout ce qui est derrière la prophétie, tout ce que la prophétie cache, ça pointait tout vers Jésus, vers cette grande œuvre que Jésus a faite. Mais quelle est cette grande œuvre que Jésus a faite? Quelle est la plus grande œuvre que Jésus a faite? Est-ce sa résurrection ou est-ce sa mort? Qu'est-ce que Jésus a fait de plus grand? Est-ce que ce sont tous les miracles qu'il a fait lorsqu'il était vivant? On va répondre à cette question-là. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Certains diront, c'est la résurrection. Pâques, c'est la résurrection, c'est l'œuvre la plus grande que Jésus a fait, c'est la résurrection. Je vais montrer que ce n'est pas ça du tout la plus grande œuvre que Jésus a fait. C'est pas la résurrection. C'est pas le fait qu'il soit ressuscité. L'Évangile, c'est pas le fait que Jésus soit ressuscité. Oui, il est ressuscité, ça fait partie de l'Évangile. Mais la plus grande œuvre, ce n'est pas sa résurrection, comme on va voir dans ces versets-là. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Les prophètes, l'esprit de prophétie que je parlais tout à l'heure, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, il parle des prophètes de l'Ancien Testament, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de la prophétie, l'Esprit de Christ. Et qui attestait d'avance, quel témoignage? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Le premier témoignage, c'est les souffrances de Christ. Et la gloire qui s'en suivrait. Mais la gloire n'est qu'une conséquence des souffrances que Christ a portées. L'apôtre Paul dira, nous allons être glorifiés avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Fait que la grande œuvre, ce n'était pas la gloire, parce que c'est comme une conséquence automatique. Mais la grande œuvre, c'était la souffrance que Christ a portée à la croix. Qui attestait la souffrance. le témoignage que Jésus a laissé, c'est son œuvre accomplie à la croix. Luc 24, versets 25 à 27. Quand Jésus est ressuscité, qu'il a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent l'Écriture, Luc 24, versets 25 à 27, ça dit bien que Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, l'esprit de prophétie, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? » Encore, il commence par la souffrance de Christ. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Si on lit au verset 44 et 48 du même chapitre, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Le témoignage qu'on doit comprendre des Écritures, là, il va l'expliquer encore. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Témoins de ces choses. Le témoignage de Jésus. Le témoignage qu'on a à rendre à Jésus, nous aussi, c'est d'abord envers la mort, les souffrances de Christ, avant la résurrection. On va lire encore un verset, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. À partir du verset 9, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la perfection, à la gloire, beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et au verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la résurrection,
par la mort,
il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça dit bien par la mort, pas par la résurrection. Quand Jésus est mort, déjà, le diable était vaincu. Ainsi, il délivre, au verset 15, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est par la mort qu'il a détruit la puissance de la mort sur nous. La puissance de la mort qui venait d'où? Qui venait du péché, de notre péché. Jésus, par sa mort, pas par sa résurrection, par sa mort, il a détruit la puissance de la mort, il a vaincu, il a pris toutes les conséquences de la mort qui était à cause de notre péché, il a tout subi sur lui, il a détruit la mort, il a détruit le pouvoir du péché, il a détruit le pouvoir du diable aussi. Et ça dira, l'apôtre Paul dit qu'il a détruit aussi le pouvoir du monde. Ça dit, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié comme je le suis pour le monde. à la croix, le monde aussi a été brisé, le pouvoir du monde aussi a été brisé. Mais par sa mort. Puis parce que à la mort, il a vaincu la mort, le péché, tout le diable, la mort ne pouvait plus le retenir, lui. C'est pour ça qu'il est ressuscité, comme conséquence de la victoire qui était déjà acquise à la croix. La croix a déjà vaincu la mort. Fait que c'était automatique. Il pouvait ressusciter maintenant parce que la mort était vaincue. Si la mort est vaincue, la mort ne peut plus le retenir. Donc, il revient à la vie. C'est automatique. La grande œuvre que Jésus a faite, c'est pas la résurrection parce que c'était juste une conséquence de la victoire de glorieuse acquise à la croix. L'œuvre accomplie à la croix par Jésus, c'est l'œuvre la plus extraordinaire que le monde n'ait jamais vécu, que le monde n'ait jamais connu. C'est la plus grande œuvre que Jésus a faite. De tous ses miracles, le plus grand, c'est sa mort à la croix. Parce que là, il a démontré son amour pour nous. Là, il a pris sur lui notre péché, notre saleté, notre pourrissure. Comme en image, on pourrait dire, c'est, il a mis les deux mains dans notre corruption, puis l'a porté sur lui. Comme une mère qui voit son enfant, son bébé, plein de marde, puis qui se met les deux mains dans la merde parce qu'elle lave son enfant, bien Jésus a fait la même chose, mais c'était une merde spirituelle. C'était la corruption spirituelle, c'était la mort spirituelle. Mais Jésus a pris ça, il l'a mis sur ses épaules à lui, puis nous a libérés. Puis ça, c'était son amour. Son amour, non pas de s'élever au-dessus de nous, c'était pas la gloire que Jésus cherchait, c'était notre salut. C'est qu'il s'est abaissé. Il s'est abaissé au-dessous de nous. Il nous a pris, il nous a porté sur lui. C'est son amour. Ça, c'est une œuvre d'amour, de se rendre le serviteur de tous. Il n'a pas cherché à être le premier, il a voulu être le dernier, de se rendre le serviteur de tous à la croix. Tout ça, ça s'est révélé à la croix. Le témoignage de Jésus, le plus beau témoignage de Jésus, c'est son amour manifesté à la croix. Un amour si grand qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Parce que il n'y a personne, jamais personne qui a fait ça sur terre. Hein? On voit les prophètes dans l'Ancien Testament, Élie a ressuscité des morts. Il a ressuscité le mort de la fils de la veuve où il habitait. Il a ressuscité. La résurrection, Jésus a ressuscité 4 personnes durant son témoignage, son ministère au moins. Lazare, il a ressuscité Lazare. C'était pas ça la plus grande des œuvres que Jésus allait faire. Il avait déjà ressuscité 4 personnes. Que lui-même ressuscite, s'il s'arrêtait juste à la résurrection, il n'avait déjà ressuscité 4, c'était rien d'extraordinaire. Mais c'était le fait que son amour soit si grand qu'il allait mourir sur la croix pour nous, en portant notre péché, en portant notre fardeau, en nous délivrant du pouvoir du diable. Tout ça, il accomplissait à la croix. Puis c'est quelque chose de très important, parce que aujourd'hui, l'autre jour, mardi passé, on écoutait une émission à Internet, un prédicateur africain, congolais, qui aux États-Unis, qui est présentant aux États-Unis, qui a une grosse église aux États-Unis. Une église qu'il a appelée apostolique, c'est-à-dire apostolique, apôtre. Et il parlait de Christ, que le fondement, c'est Christ. Il parlait de Christ. Puis on écoutait, il parlait que comment si Jésus, c'est la gloire, c'est une vie de résurrection, c'est une vie d'abondance, une vie de prospérité. Et on l'écoutait parce qu'il parlait de Christ. Il dit, il faut penser sur Christ, sur Christ, sur Christ. Puis là, il parlait toujours de Christ. À un moment donné, il parle de la croix. Et là, il dit, la croix, c'est pour les
bébés.
C'est pour les bébés, ça, c'est plus pour nous autres.
Comme ça? Il y a une fois que vous êtes allé à la croix, vous avez besoin. C'est pour les bébés.
Là, les oreilles nous ont tordues. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi cette affaire? Croix. La quoi, c'est pour les bébés. Mais c'est notre vie, c'est notre source. C'est là que je rencontre Dieu tous les jours, comme j'expliquais mercredi passé. C'est le lieu de rencontre. Parce que je dois devenir un avec Christ dans sa mort. Je dois devenir moi aussi un serviteur par son esprit d'amour qui est manifesté à la croix. Puis je le contemple là, à la croix pour recevoir son esprit d'amour qui l'a manifesté à cette place-là. Jésus n'a pas cherché la gloire. Jésus n'a pas cherché la résurrection. Il a cherché à se rendre serviteur et s'est abaissé. Ça dit dans Philippiens, il n'a pas cherché à être à la même hauteur de Dieu. Il s'est abaissé. Il a eu un cœur d'humilité, il s'est abaissé pour être un serviteur. C'est ça que Jésus avait comme caractéristique, comme témoignage. Mais là, c'était ça. Lui, il parlait le témoignage de Christ vivant. Christ est ressuscité, on ne parle plus de la mort. Christ est ressuscité. C'est la résurrection. C'est la résurrection, l'œuvre la plus glorieuse de Jésus. Là, il dit. Là, il commence à compter son témoignage. Il dit, j'étais appelé, mon ministère a commencé le jour où il était en train de prêcher à un hôtel, la chair, il appelle ça un hôtel. Il dit, l'hôtel, le feu de Dieu est descendu sur l'hôtel s'est fendu. Puis là, il a tombé à terre, puis son ministère a commencé là. C'est vrai. Il veut me faire remarquer. Il dit, il y a une place dans la Bible qu'un hôtel qui a fendu. Oui, c'est vrai, il y a une place. On a été regardé dans la Bible. La place où l'hôtel a fendu, c'était dans le roi Jéroboam qui avait fait un faux hôtel, un hôtel de faux dieux. Et là, il est arrivé un vrai prophète qui a dit comme signe que cet hôtel-là est faux et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, l'hôtel sur lequel tu es va fendre. Le feu de Dieu est tombé, l'hôtel s'est fendu, parce que c'est un faux hôtel. Puis là, c'est ça. L'hôtel. Une place au prêcheur, un hôtel. Et on appelle ça un hôtel. Mais c'est la chair.
Oui,
podium, là, c'est la même chose. Là.
Alors, c'est ça. On était dans l'hôtel, alors.
L'hôtel a fendu, le podium a fendu, mais il appelle ça, lui. Mais lui, il appelle ça un hôtel. Lui, dans sa protection, il dit que c'est un hôtel, puis on dit ça aussi ici en français que c'est un hôtel. C'est un podium, on appelle ça un hôtel.
Ouais,
pourquoi? La chair, là. Mais c'est la même image. Puis là, il dit que son ministère a commencé là. Mais c'est un faux hôtel. C'est parce que c'est un feu étranger. Puis Dieu a fait un jugement. C'était pas un appel au ministère, c'est au contraire, c'était jugé. Parce que là, on continue à l'écouter, on dit, ben putain, ça marche pas cette affaire-là. Là, il commence à dire, là, j'ai été rempli de cet esprit. Puis là, il dit, je sais que tu es rempli de l'esprit. Il dit, ça coule. Puis il dit, là, il y a de l'éloquence. Parce qu'il était très éloquent. C'était quelqu'un parlait en anglais, là, mais il était très, très éloquent. Là. Tu sais, les gens sautaient. Très habile au niveau de la langue, du langage. Une grande sagesse au niveau de la langage. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, ça mentionne clairement que l'apôtre Paul, le grand apôtre, après des années de ministère et un ministère très, très fructueux, a dit que la seule chose qu'il connaissait, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, puis qui n'avait pas été prêché, Christ crucifié, avec la sagesse du langage, ni avec l'éloquence. C'est ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, que ce n'est pas basé sur l'éloquence ou sur la sagesse des hommes, la sagesse du langage, que sa prédication était basée, puis que sa foi était basée. Sa foi n'était pas basée sur ces choses-là. Parce que c'est la science, l'éloquence, la sagesse du langage, si quelqu'un base sa prédication là-dessus, c'est pas sur Christ crucifié. C'est un faux, une fausse conversion. C'est un feu étranger que la personne emmène.
Un gros égo.
Un gros égo. Puis là, c'est ça, il commence à parler. Il dit, moi, je ne me promène pas en Cadillac, je me promène en Rolls-Royce. Il continuait, là, on voyait combien. Mais c'est ça, c'est qu'il parlait juste de Christ ressuscité. Là, c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, va voir dans la parole. La résurrection de Christ, ce n'est pas l'œuvre sur laquelle tu dois avoir les yeux. Ce n'est pas la plus grande œuvre que Jésus. Le témoignage de Jésus, là où la victoire de Jésus, c'est la croix. C'est à la croix que la victoire a eu lieu. Vous pouvez me donner les versets? Oui. Parce que aujourd'hui, il y a tout un mouvement. On écoute souvent, nous autres, la télévision Internet avec les chrétiens, là, les émissions chrétiennes, les post-chrétiennes. Et ce qui est très répandu aujourd'hui, c'est que les prédicateurs parlent de la gloire de Dieu. Il faut vivre dans la gloire, il faut vivre dans la gloire, dans la prospérité, Mais c'est beaucoup le mot gloire qui revient constamment. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu a appelé à fixer nos pensées et nos focus et notre cœur. C'est sur la croix. Parce qu'à la croix, là, il y a la vraie gloire. Parce que ça dit bien, il a passé par la croix, par les souffrances, et la gloire qui s'en suivrait. Parce que la gloire de Dieu se manifeste là où l'esprit de Christ, l'esprit marqué par l'amour de Dieu, l'esprit de serviteur d'humilité que Christ avait, la gloire vient accompagner cette personne-là. Mais il faut avoir l'esprit de Christ, l'esprit qui était à la croix. Parce que le centre de notre message, ça doit encore être Christ et Christ crucifié. Parce que c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour les matures, au contraire. Christ crucifié, c'est pour les matures. Puis quelqu'un comme ça, il prêche un faux évangile. C'est un faux évangile qui prêche. Puis l'apôtre Paul, il n'était pas tendre avec ça. Puis quelqu'un vient à vous qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit.
Il y a beaucoup d'ingénieurs faits comme ça.
C'est ça.
Et les Congolais aussi commencent à. Imiter les esprits des étrangers. Parce que nous au Congo, en tout cas, là il n'y a pas beaucoup de prédications de gloire. Et surtout, on prêchait surtout pour la foi de Jésus. Surtout, jusqu'à la fin qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, comme moi ici. Il faut qu'ils ferment la voie.
La voile.
Voile, oui. La foi. Comme dans la Bible, Corinthiens dit, ils respectent ça. Alors, chaque il fait un concile. Dans l'église, il y a les qui va chercher quelques personnes dans l'église, qui sont à l'extérieur comme là, qui vont parler. Moi, j'ai choqué son mal à mon cœur. Je faisais comme ça, et je dis à ça. Confesse les péchés. Pas fait ça. Après, il part entrer là. Beaucoup, les prédications, c'est pour aller à la croix. Beaucoup. Maintenant, quand on est arrivé au Kenya, on a voyé l'autre prédication. C'est pour dire la grâce de Dieu, même si tu as fait les péchés, même si, oui, je sais, mais il faut savoir qu'est-ce que j'ai fait. Il faut connaître avant. Il faut connaître quand je faisais moi. Je vais repentir. Mais là, ce n'est pas comme ça. C'est l'autre truc, il disait, Dieu l'a fait, Jésus l'a fait tout, continue, blessing, glory,
richesses.
Et les richesses, toutes choses d'ici dans le monde, c'est pour nous. Toutes choses qu'elle
a fait.
Prospérité.
L'évangile de prospérité.
C'est ça. C'est l'évangile de prospérité. Alors, les Congolais qui arrivent là, ils commencent à imiter les choses-là. Parce que, au Kenya, dans l'église, on ne parle pas la croix. Si tu commences à parler la croix, quand tu es pasteur, les chrétiens.
Ah oui.
Oui. Si tu viens comme. Écoute, quand tu viens là comme un visiteur pasteur, prêcher avec, comme la sagesse là, tu viens me dire la personne là, comme la sagesse, il faut prêcher comme ça parce que si tu dis, L'autre est moqué, il n'est pas là. Il va t'arrêter. Non, là, non. Il ne faut pas parler pour le péché, il ne faut pas parler pour la croix, il faut parler pour la gloire, parler prospérité, parler comment Jésus il a fait pour nous, et toutes choses là. C'est là que les pères des Congolais qui commencent à éviter les mauvais esprits, alors ça mène beaucoup dans les jambes à ça.
Mais c'est ça. C'est l'importance de demeurer sur le témoignage de Jésus avec le vrai esprit de prophétie. Parce que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage. Tu reçois une parole de Christ vivant, mais ça doit toujours être en conformité avec le témoignage que Christ a rendu à la croix, avec l'esprit d'amour qu'il a manifesté à la croix. Ça doit être fait dans cet esprit-là. Parce que si c'est fait dans un esprit purement égoïste, parce que nous, on était dans certaines églises prophétiques, beaucoup prophétiques, où ça devient comme juste des prophéties, des bonnes paroles pour
gonfler l'ego.
Ça encourage les chrétiens, mais souvent c'est juste, ça ne reprend pas les chrétiens, ça n'amène pas les chrétiens à la croix. Au contraire, ça les éloigne parce que ça les amène dans le confort, dans une certaine prospérité.
Des choses
Oui.
C'est
leur destinée, leur destinée. Oh. Mais c'est ça. Il y a une vraie prophétie, mais la vraie prophétie, elle doit être comme. Elle veut couler avec l'esprit de Christ, le témoignage de Jésus, le témoignage de ses souffrances. Elle doit aller dans ce sens-là, dans le sens de l'amour et de la vérité qui est en Jésus.
Faire la conformité à sa mort.
C'est ça. Pour juste exalter le moi, parce que là, ça devient comme, ça déroute encore. C'est comme si ça se trouve à tort le chemin de l'Évangile, à s'éloigner du chemin que Jésus a tracé pour nous autres. Ouais.
Juste
savoir, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être mis en garde, puis il faut vraiment faire comme l'apôtre Paul. Je ne connais autre chose parmi vous que Christ et Christ crucifié. Le Christ vivant, une relation avec Jésus, basée sur le lieu de rencontre qu'on a à la croix, basée sur le témoignage que Jésus a laissé à la croix. Parce que c'est là qu'on peut discerner si c'est vraiment Dieu qui nous parle, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous parle, ou si c'est... Il y a beaucoup d'esprits d'égarement. Puis des fois, c'est pas nécessairement l'Esprit de Dieu qui parle au travers de telle prophétie. Ésaïe 22, versets 22 à 25. Ésaïe 22, les versets 22 à 25. C'est une prophétie sur Jésus. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. On voit dans l'Apocalypse que Jésus se présente comme celui qui est la clé de la maison de David. C'est une prophétie concernant Jésus. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles et des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, Le clou enfoncé dans le lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Hein? Le fardeau qui était sur Jésus, c'était nos péchés. C'était le poids de toute notre malédiction qui a été pris sur Jésus. Fait que le clou enfoncé en lieu sûr, c'était Jésus. Et le fardeau qui était sur lui, et qui a été détruit en même temps que Jésus est mort à la croix, c'était toute notre malédiction, tous nos péchés, toute la mort, toute la malédiction, le pouvoir du diable sur notre vie. Tout ça a été brisé à la croix. Comme on a lu dans ce verset-là. Car l'Éternel a parlé, le témoignage que Dieu rend à son Fils. Car l'Éternel a parlé, le témoignage que Dieu a rendu à Jésus. Le témoignage que Dieu veut nous laisser, le témoignage qui est le plus grand, c'est justement ce que Jésus a fait à la croix. Et cet esprit d'amour qu'il veut nous voir, dans lequel il veut nous voir marcher, se conformer à cet esprit d'amour. 1 Pierre 2, versets 21 à 25. On voit ici ce que l'apôtre Pierre, de quelle façon qu'il encourageait les chrétiens. Versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Remarquez bien qu'est-ce qu'il dit. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que là, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ben, Christ a souffert pour moi, je n'ai plus à souffrir. Christ a tout porté, j'ai plus à porter, à souffrir, j'ai à marcher dans la gloire, dans la résurrection. Mais remarquez ce que l'apôtre Pierre dit. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Oh, c'est comme... Il a souffert afin qu'on vienne derrière lui, qu'on porte notre croix à sa suite. Il n'a pas dit, tu regardes, tu lis toutes les épîtres de Pierre, les épîtres de Paul, c'est la même chose. Ils ne sont pas là en train de dire, là c'est la gloire pour vivre dans la juste dans la gloire, dans la bénédiction, dans la prospérité. Ils ne sont jamais en train de dire ça. Ils sont en train de dire... Pour suivre Christ sur le chemin de l'amour, sur le chemin de l'humilité dans lequel il a marché, en allant jusqu'à la croix, et que lui aussi nous appelle à marcher à sa suite. Il a tracé un chemin pour nous, mais il veut qu'on marche derrière lui, parce qu'il va nous prendre par la main, puis il va nous emmener où? À porter notre croix, nous aussi, à souffrir avec lui. Parce que si on souffre avec lui, si on a la communion de ses souffrances avec lui, il y a aussi la puissance de la résurrection qui va venir sur nous avec lui. Parce que la victoire n'est pas à la résurrection. La victoire est à la mort de Jésus-Christ. C'est lors de sa mort qu'il a vaincu l'ennemi, comme on a lu tantôt dans l'Hébreu. C'est quand Jésus est mort que la mort a été vaincue. Pas le jour de la résurrection, le jour de sa mort. Parce que c'est là qu'il a eu toute pleine victoire sur l'ennemi. C'est qu'on voit combien que nous aussi, on est entraîné à marcher à sa suite, à chercher, non pas la gloire, à chercher la communion de ses souffrances, à marcher à sa suite derrière lui. L'apôtre Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, 2 Corinthiens 12. De Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Regardez bien, je me glorifierai donc. Le témoignage que je vais rendre, que je vais donner à l'extérieur, ce que je vais me glorifier, c'est-à-dire le témoignage que je vais rendre, je vais me glorifier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Où Paul se plaisait-il? Dans le Christ ressuscité, dans le Christ glorieux, dans la gloire, dans le royaume, dans la destinée, dans la prospérité. Non, non. Il dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Remarquez la lettre. Et tu vois, quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort. C'est pas ça qu'il dit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que moi, je marche dans l'esprit d'amour avec Jésus-Christ. C'est là, quand je marche à sa suite, que là, c'est là que je suis fort dans le sens que je manifeste le vrai amour de Christ. Je deviens comme Christ. Je manifeste le même amour que Christ a manifesté à la croix. Alors, c'est là que je deviens fort en souffrant, en marchant à la suite de Christ. Non pas qu'on cherche, on est paranoïaque et on cherche la souffrance, c'est pas ça. Mais on se plaît à suivre Christ. Il nous prend par la main, puis c'est sa grâce. Sa grâce va nous faire passer à travers des situations difficiles pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il va nous apprendre à porter les gens autour de nous dans un esprit d'amour, à les porter comme des enfants, pour que la gloire de Dieu se manifeste parmi les autres qui sont autour de nous autres. Parce que c'est ça son amour. L'amour de Dieu a conduit Jésus à porter le monde entier sur ses épaules, nos péchés. Mais l'amour de Dieu va nous conduire, nous aussi, à se porter les uns les autres, à porter les charges, les fardeaux. C'est-à-dire porter les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est la grâce de Dieu en nous qui va nous emmener à porter les fardeaux des autres. Puis ça, en portant les fardeaux des autres, ben, ça l'amène des souffrances. C'est comme quand tu choisis d'élever des enfants, ben, tu sais que tu vas avoir des souffrances, parce qu'élever des enfants, c'est une bénédiction. Mais en même temps, ça l'amène des souffrances, et il y a des privations, des sacrifices qui s'entraînent. Mais c'est la même chose dans l'Église de Christ. Si on veut servir Dieu, ben, il faut devenir un serviteur, puis il faut être prêt à souffrir, à porter les fardeaux les uns les autres, puis à supporter, à être patient, à reprendre, à endurer, à corriger, à redresser. Toutes des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, qui ne sont pas nécessairement confortables. Mais c'est l'Esprit de Christ, c'est la grâce de Dieu qui va nous emmener avec lui à souffrir avec Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le témoignage. L'Esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Fait que le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui va nous emmener dans ce chemin-là, à la suite de Christ. Puis c'est là que la gloire de Dieu va se manifester aussi, que la puissance de Dieu va se manifester. Parce qu'en marchant dans son amour, ben c'est automatique. On marche aussi dans la puissance de la résurrection de Jésus. On marche aussi dans la puissance de la vie de Jésus. On marche dans la puissance sur l'ennemi. En marchant dans sa croix, en Christ crucifié, on marche dans sa victoire, automatiquement. On n'a pas cherché la gloire. Elle est automatiquement qu'on cherche à marcher dans les souffrances de Christ. Quand on communie à ces souffrances, la gloire de Christ est là automatiquement. Mais on ne cherche pas la gloire, on cherche l'esprit de Christ, l'amour de Christ. On cherche à marcher comme lui, parce que c'est notre but premier. C'est de devenir semblable à Christ. C'est notre but. Devenir semblable à Christ, quoi? Pas dans sa gloire, parce que on ne peut pas aller dans sa gloire sans souffrance. Mais on cherche à devenir semblable à Christ au travers du même chemin que lui a marché. Puis c'est lui qui nous entraîne là. C'est sa grâce qui nous entraîne là. C'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose de lourd à porter, parce que c'est pas nous, c'est pas moi qui marche, qui choisit le chemin que j'ai à suivre. C'est Jésus qui m'entraîne à sa suite. C'est lui qui va me mettre, qui va me donner la force, puis c'est lui qui va permettre les circonstances, qui va ouvrir les chemins, qui va me mettre devant des gens, qui va m'apprendre à aimer mes ennemis. Parce que souvent, la gloire de Dieu va se manifester quand on supporte un ennemi, et ça permet à Dieu d'intervenir, puis de corriger, redresser la situation. Comme dit un moment donné l'apôtre Paul, il dit, c'est un juste jugement de Dieu que Dieu rende justice à vous qui souffrez, puis qu'il châtie le méchant. Autrement dit, c'est comme si vous souffrez à cause du méchant, ben ça permet à Dieu d'intervenir dans cette situation-là, de se glorifier. Parce que là, il y a une raison d'intervenir, parce que là, le méchant manifestait sa méchanceté en vous persécutant, en vous outrageant, en se moquant de vous. Le méchant manifeste sa méchanceté, mais ça permet à Dieu d'intervenir. C'est ça qu'il dit. Je me plais dans les faiblesses, les outrages, les persécutions pour Christ, les calamités, les détresses. C'est des situations où c'est comme si Dieu permet le méchant de faire un pas de destruction, mais dans le fond, nous, on a souffri à cause de ça un peu, mais dans le fond, c'est juste la goutte qui permet que le méchant soit enlevé, puis que le royaume de Dieu puisse se manifester, la puissance de Dieu puisse se manifester, parce que Dieu a toutes choses entre ses mains. Dieu a tout en contrôle. Puis on le voit dans la situation de qu'est-ce qui se passe ici. Là. Ben, c'est Dieu qui permet ça, mais Dieu veut se glorifier parce que Dieu veut enlever le méchant qui se cache au milieu de l'assemblée. Il veut enlever les gens qui font du tort, des fois, et qui se cachent, les gens qui agissent de façon dissimulée, cachée, hypocrite. Parce que il y a des gens, des fois, qui commettent le mal qu'on peut discerner, qu'on peut voir, parce que, si quelqu'un commet la fornication, ben ça va se savoir. Si quelqu'un fait des choses, des tromperies, le vol, l'alcoolisme, c'est toutes des choses qui vont se voir facilement. Mais comme dit l'apôtre Paul, il y a des péchés qui sont plus difficiles à juger parce qu'ils sont cachés. Les gens le font de façon hypocrite. Ben, dans ce temps-là, Dieu va permettre des circonstances comme ça. Il va permettre que la méchanceté de cette personne-là soit dévoilée. Puis des fois, il y a des gens qui vont souffrir, les justes vont souffrir un peu à cause de ça, mais ça va permettre à la gloire de Dieu de se manifester puis d'emmener son jugement, puis d'emmener sa gloire aussi. Ouais. C'est ça. Amen. Mais c'est ça. C'était, mettons notre focus, nos yeux sur le témoignage qu'on a à rendre, l'esprit de prophétie qui va se manifester au travers de nous, va se faire au travers de la croix, le témoignage de Jésus.